Dan Mag, T comme Titan, Dan comme Daniel, le magazine de Titan et Dan. Le Titan Mag avec la complicité de l'ami éclairé,
Dominique,
au micro, et de l'ami fidèle,
Laurent,
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. Déjà, nous bouclons nos émissions de la saison 2014-2015. Et pour vous souhaiter de belles et enrichissantes vacances, nous vous présentons une émission spéciale sur les BD, les bandes dessinées. Il y en a pour tous les âges, pour toutes les couleurs et les humeurs. Une façon ludique de nous séparer le temps de l'été et pour clore notre émission, le Titan Mag, qui vous a suivi pendant une dizaine d'années. Nous sommes fiers d'avoir pu vous faire connaître une panoplie prestigieuse d'invités les plus fascinants par leur parcours et leur idéologie et recherche de vie. Un vrai bonheur de les avoir reçus sur l'antenne de Couleur FM et une reconnaissance profonde pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Et un immense merci à notre technicien Laurent qui nous a suivis durant tous ces enregistrements de façon professionnelle et pertinente. Il est resté notre première oreille bienveillante et critique. Un rapide et grossier calcul nous fait réaliser qu'en montant 22 émissions par an, le Titan Mag vous aura présenté environ 220 personnalités. Nous espérons qu'elles vous auront fait rêver autant qu'elles nous auront appris tout au long de ces années à entendre ces aventures humaines. Revenons à notre sujet du jour, la BD. Le Titan Mag s'est rendu au Salon du Livre à Bron, où nous avons rencontré le scénariste Christophe Dabitsch et le dessinateur Christian Durieux autour de l'histoire « Le Captivé » chez Futuropolis. Christian Dabitsch est journaliste de formation et aime se confronter à l'histoire avec un grand H. C'est certainement pour mieux parler du monde d'aujourd'hui, nous explique-t-on. S'il nous fait revivre des moments épiques du passé, c'est surtout à des voyages intérieurs qu'il nous convie. Le temps de longs récits, il entre dans ses personnages pour mieux en comprendre leur mentalité, pour mieux en faire ressortir toute la complexité avec la volonté d'être le plus juste. Car parler des autres, c'est aussi parler de soi. Et Christian Durieux, là aussi, on nous raconte sa passion pour l'image, son goût pour les mots et les histoires qui l'ont amené très tôt à la bande dessinée. Lorsque l'on dit tôt, c'est tôt. À 13 ans, Christian Durieux rêvait tellement de faire de la bande dessinée qu'il a proposé ses œuvres aux éditions Dupuis. Courtoisement éconduit, son goût du dessin ne le quittera jamais. Nous allons vous faire entendre l'entretien enregistré en direct, d'où un bruitage important. Nous nous en excusons et pensons que le message reste audible.
Bonjour, en direct de la fête de livres de Bron, nous sommes en présence de deux BDistes, un auteur et puis un dessinateur, pour un ouvrage qui s'appelle « Captivé, l'incroyable histoire d'Albert Dada, l'homme qui voulait toujours être ailleurs ». Alors on aimerait savoir quel est tout d'abord le propos de cette BD.
Alors c'est l'histoire d'un jeune homme fin 19e siècle qui arrive un jour à l'hôpital de Bordeaux et qui est extrêmement malheureux, qui veut se faire guérir parce qu'en fait il voyage sans le contrôler, il part sans arrêt loin de chez lui et il voudrait absolument en fait rester chez lui, se marier, avoir un travail, avoir une vie normale. Mais il y a quelque chose en lui qui fait que il s'en va, il quitte la ville et il part sur les routes dans un état d'inconscience. Et il se réveille souvent loin de chez lui, mais il continue le voyage. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce jeune homme qui, parce qu'il y a un médecin, va essayer de le soigner, va devenir en fait le premier fugueur pathologique au monde, recensé en tant que tel.
Alors Christophe, David, chez vous qui avez écrit le récit.
Oui.
Vous avez trouvé cette histoire? Comment?
Alors moi je vis à Bordeaux, puis un jour il y a un philosophe des sciences canadien qui s'appelle Ian Hacking qui est venu à Bordeaux avec un de ses étudiants pour enquêter sur deux cas bordelais. Un cas qui était une femme qui s'appelait Felida X, qui était peut-être la première personnalité multiple au monde, c'est-à-dire qu'il y avait plus de deux personnalités, il y en avait trois. Et il est venu étudier un autre cas qui était celui d'Albert Dadas, donc ce fugueur étrange, pathologique. Et en fait, j'ai rencontré Yana King à ce moment-là. Et puis voilà, on a sympathisé, fait part de ses recherches. Et puis bon, voilà, moi, ça a commencé, l'histoire a commencé à me prendre à ce moment-là. J'ai fait mes recherches aussi. Et puis j'ai écrit un certain nombre de choses. Et puis l'histoire m'est restée en tête. Et puis finalement, ben, voilà, avec la rencontre avec Christian, c'est sorti, disons, en récit de bande dessinée. Voilà.
C'est Christian Durieux.
Oui.
Et ce choix s'est fait tout naturellement entre vous deux.
Ben oui, parce que moi j'aime beaucoup les dessinateurs blonds et quand j'ai vu Christian. Non, mais c'est-à-dire qu'après c'est des rencontres, donc on a discuté, on a apprécié le travail de l'un et de l'autre, on en a parlé.
Voilà, c'était dit d'une envie commune de travailler, et puis il se fait que ce projet, tu l'avais depuis un moment, et puis le moment est tombé, on a pu se rencontrer dessus.
C'est votre premier
ouvrage
fait ensemble.
Oui. Il arrive qu'on collabore pour des ouvrages collectifs, dont un sur Amnesty International, et on en avait fait un, enfin tu avais coordonné un livre sur des migrants en France, et donc j'avais été un des auteurs qui illustrait une série de témoignages que Christophe avait orchestré.
Alors pour cette BD, Le Captivé, vous avez pris le parti du noir et blanc.
Oui, pour plusieurs raisons, en fait, un peu de façon un peu accidentelle. J'ai commencé comme ça et puis on s'est dit que c'était bien comme ça. Il y avait une hésitation sur la couleur au départ. Au départ, la période s'y prête, on est à la fin du 19e siècle, et il y a un parti pris au-delà de la question du noir et blanc, il y a un parti pris pour quelque chose qui soit assez, entre guillemets, doux et éthéré, qui est une espèce de clin d'œil à l'impressionnisme de l'époque, puisqu'on est en pleine période de l'essor de l'impressionnisme. Et par exemple, il y a des scènes de gare, de choses comme ça, comme Monet a pu les peindre. Et c'est cohérent avec l'idée du voyage, puisque Albert est quelqu'un qui voyage tout le temps. On est au début de la période des machines à vapeur, des trains, des bateaux, etc. Et donc tout ça, il fallait le faire ressentir dans le livre.
Ce livre est là maintenant, mais il a une longue gestation, j'imagine déjà pour vous, Christophe Davitch, déjà le temps de la recherche.
Ben oui, après il y a des livres, souvent les livres, d'une certaine manière, ils vous poursuivent un peu, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui reste, qui accroche, il y a quelque chose qui reste présent, on tourne autour, on avance, et puis ben, moi cette histoire, j'en ai pris connaissance il y a 20 ans, vous voyez, donc ça fait très longtemps, quoi. J'ai essayé, j'avais un projet de film, après un projet de texte, après j'ai fait différentes choses, etc. Et puis finalement, voilà, au bout d'un moment, c'est arrivé à cette forme-là en bande dessinée, parce qu'entre-temps, depuis 8-9 ans, j'avais commencé à écrire de la bande dessinée, travailler avec des dessinateurs, et donc c'est arrivé sous cette forme où je me suis dit qu'en plus, c'était intéressant, parce que comme on a un parti pris assez intimiste sur l'histoire, peut-être que la bande dessinée permettait ça, de raconter cette histoire de voyage, où finalement on a choisi avec Christian en discutant de ne pas forcément montrer énormément les voyages, de ne pas être dans l'exotisme du voyage dans les planches, plutôt d'être dans l'intériorité, dans l'intimité, avec cet appel, avec ces voyages en fond, mais pas forcément être dans le voyage, disons, nous-mêmes dans le récit, quoi. On est plus dans un questionnement sur le voyage et sur l'évocation du voyage, en fait.
Parce que aussi c'est un livre qui raconte une rencontre entre le voyageur et son médecin, et que c'est ce lien qui se crée aussi. Il n'y a pas uniquement la particularité du voyage, mais il y a aussi cette façon de grandir à deux dans la relation patient-médecin.
Est-ce que ça nous a donné envie de faire un autre ouvrage?
Ben, disons que pour l'instant, on a chacun des livres qui sont en cours, des choses comme ça, mais donc pour l'instant, on n'a pas parlé d'un autre livre, mais par contre, on est en train de commencer à travailler sur un film à partir du Captivé, en fait. Ouais. Donc là, c'est le début d'une autre aventure, on va dire.
Christophe Davitch, comment arrive-t-on à faire avoir l'écriture pour la BD? Est-ce que c'est très exigeant, c'est tout à fait autre chose qu'un texte?
Ben non, enfin moi je fais pas de différence je fais pas trop de différence entre les écritures, en fait, que ce soit en prose ou en bande dessinée. Chacune a sa particularité, mais disons que en plus, bon, moi j'écris les scénarios de bande dessinée un peu comme une pièce de théâtre ou comme une suite dialoguée. Enfin, donc il y a toute une partie du texte qui disparaît, évidemment, parce qu'il est remplacé par des dessins, entre guillemets. Et puis, après, moi, je me pose pas trop cette question, parce que dans la bande dessinée, il y a ce qu'on appelle des voix narratives, enfin, qui sont avec les dessins, qui pour moi sont des textes en prose, mais découpés de manière un peu différente. Ensuite, il y a des dialogues, mais comme on peut le trouver au théâtre ou au cinéma, c'est un peu autre chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans la bande dessinée, il y a moins le souci du réalisme, en fait, qu'il peut y avoir peut-être, par exemple, au cinéma. C'est-à-dire que dans les dialogues, c'est toujours moi qui parle d'une certaine façon. Et je pense que la lecture de dialogue en bande dessinée permet une sorte peut-être d'intériorité qui est un peu différente et de se débarrasser peut-être de certaines questions trop réalistes, en fait. Quoi. Puisqu'on est à cheval entre le texte et le dessin, et finalement on arrive. Enfin, moi je suis assez obsédé quand j'écris des bandes dessinées. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est pas forcément de caractériser des personnages et tout ça, mais c'est d'arriver à trouver des voix, en fait, arriver à toucher et à sentir des voix d'un personnage. Et donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez intérieur, quoi, finalement. Donc oui, il y a une écriture qui est spécifique, mais il y a aussi des scénaristes de bande dessinée qui écrivent leur scénario en décrivant vraiment les cases, le découpage et tout ça, etc. Ce que moi je fais pas du tout, parce que je considère que c'est le travail du dessinateur et qu'il est plus à même que moi de le faire, et que la partie visuelle, disons, est plus... je pense que c'est mieux que ce soit lui qui travaille là-dessus, c'est son domaine. Après, moi, j'essaie de faire imaginer dans mon écriture ce que j'ai en tête, en fait. Et après, ça entre en écho ou pas avec le dessinateur, lui, son propre imaginaire, et comment il va représenter les choses. Enfin, sur un personnage, je ne vais pas dire un personnage, il est comme ci, comme ça, et il boit... j'aime bien laisser l'imaginaire au dessinateur qui, lui, va projeter à partir de ce que j'ai écrit et qui va créer un physique, une manière de se déplacer, une gestuelle et tout. Et ça fait, pour moi, ça fait partie du plaisir, de l'intérêt de travailler à deux, en fait, d'avoir ce retour comme ça et de autre chose.
Et Christian Durieux, est-ce que vous avez différentes façons de dessiner selon le thème, parce que là, nous avons plusieurs bandes dessinées et qui représente tout à fait en couleur, noir et blanc, mais tout à fait autre chose, différemment. Oui.
Eh bien, ça a été presque un problème, parce que je me demandais si je n'étais pas plus que schizophrène à un moment, parce que effectivement, parfois, sur une journée, j'entamais deux travaux très différents graphiquement, en faisant l'un le matin et l'autre l'après-midi. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait on peut avoir du plaisir à faire comme on aime, c'est-à-dire vous aimez toutes sortes de styles d'écrivains différents, sans doute des cinéastes différents, certains sont très austères, d'autres très baroques peut-être. Et moi en tout cas j'aime beaucoup de choses comme amateur, et je me suis dit pourquoi se priver de faire de façon multiple, quoi. Et donc il y a une façon d'appréhender chaque projet avec peut-être graphiquement un parti pris. La façon dont j'ai dessiné le captivé, je ne dessinerai sans doute pas un autre projet de cette même manière. Il y a vraiment, je m'empare du sujet, j'essaie de que le style corresponde en tout cas à l'envie que j'ai de faire passer.
Ce n'est pas évident parce qu'on a une patte.
Oui, donc c'était ça le problème. D'ailleurs, c'était de se dire non seulement j'étais schizophrène, mais je n'avais pas de patte à force d'en avoir trop. Donc enfin de les multiplier. Mais bon.
On l'appelle mille pattes.
Oui, c'est ça.
De la même façon, Christophe David, vous écrivez pour des revues politiques, par exemple, pour autre chose que la BD ?
Oui, j'ai écrit des livres, des récits avec un ami photographe qui sont dans un registre assez différent, avec une partie documentaire, une partie imaginaire. Oui, j'écris des textes en prose aussi. Et puis je sens que ça vient là maintenant de l'envie d'écrire sans images aussi. Là, sur un dernier livre que je viens d'écrire où ça m'a l'envie en train de venir d'écrire sans images. Donc, mais moi c'est pareil, c'est comme Christian. Après je pense que malgré dans les différentes collaborations avec les différents dessinateurs, les récits sont différents, mais je pense qu'on retrouve quelque chose. Après l'important pour moi c'est de travailler une matière qui est l'écriture. Je ne change pas de style, quoi. Et je crois qu'on retrouve des... c'est comme des variantes, quoi. On retrouve des choses qui reviennent dans l'écriture, mais avec... c'est ça qui est dur à trouver, d'arriver à toujours pareil, c'est d'arriver à trouver son écriture, son style, son expression, et c'est toujours ce que je recherche, moi, que ce soit au travers de la bande dessinée, du texte en prose, voilà. Après, j'ai un lien assez fort avec la matière documentaire, on va dire, avec, autour de laquelle je tourne. Donc voilà, j'ai des problématiques, bien, des questions qui reviennent un peu d'ouvrage en ouvrage, quoi. Je m'en aperçois au fur et à mesure.
On peut demander comment trouver ce livre, dans quelle maison d'édition on peut le trouver?
Alors, Le Captivé, il est publié chez Futuropolis, qui est une maison de bande dessinée, et on le trouve dans les librairies, sur Internet, un petit peu, il est distribué un petit peu partout. Et il a été traduit maintenant aussi à l'étranger, donc voilà, il circule.
Et on va vous remercier, Christophe David et Christian Durieux.
Merci à vous.
Merci.
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 C'est un départ sans un bagage, sans train de nuit au bout du quai. Le jour s'en va sur cette image, l'écho d'un pas sur le pavé. L'amour n'a plus sur son visage le mystérieux et les attraits que le hasard donne aux nuages. Comme la pluie sur de la craie, l'oubli se fait sur son visage. Il n'a plus rien d'elle. On peut sentir le parfum sans posséder la rose. On peut sentir les choses comme le vent entre ses mains. On voudrait le garder, on n'a plus rien d'elle. Du jour qui nous attend, l'amour a ce mystérieux et cet attrait. Comme les nuages là-bas, l'amour a d'un visage que des lointains. Il n'en reste pas plus que d'avoir voulu prendre le vent entre ses mains. Le parfum sans posséder la rose. On peut sentir les choses comme le vent entre ses mains. On voudrait le garder, on n'a plus rien d'elle. Doré où son regard s'oublie, l'amour a des couchants comme ceux du soleil, automne des dernières lueurs qui balayent un ciel où vient s'étoiler sa mélancolie. Dans ses reflets dorés où son regard s'oublie, ce fut un départ sans un bagage, sans train de nuit au bout du quai. Le jour s'en va sur cette image, l'écho d'un pas sur le pavé.
Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre Christian Tarrou dans L'écho d'un pas de l'album Lettres de poussière.
Le Tidane Mag s'est également rendu au 8e festival de la bande dessinée et de l'illustration à l'espace Grenette de Bourgoin-Jallieu. Là aussi, sur le vif, nous avons eu le plaisir de discuter pendant un très court instant avec le dessinateur de manga Zeryu. Dessinateur en bâtiment, ces démons de la BD le rattrapent très vite. Il contacte un magazine de presse, Yoko, qui publie ses premières planches de bande dessinée. Il reconnaît avoir un graphisme d'origine comics, fortement influencé par le trait manga qui lui permet de dynamiser l'action à sa convenance, comme le fait le cinéma américain ou l'animation japonaise. Il choisit un chemin difficile, car les mangas, surtout dessinés par des Français, n'ont pas la cote et sont difficilement reconnus. Heureusement, les mentalités et le regard sur les mangas ont pu changer au fil du temps. Écoutons-le.
Bonjour Zeryu.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur de mangas ?
Oui, de mangas et aussi de bande dessinée.
De bande dessinée.
Oui, je fais les deux formats, les deux formats ne me gênent pas.
Le manga, c'est bien d'où pour vous l'idée, l'envie d'en faire ?
Le manga, pour moi, à l'origine, c'est un dessin animé qu'on appelait Goldorak et qu'on voyait en dessin animé à la télé sur France 2 aujourd'hui, sur Antenne 2 à l'époque. Et je ne savais pas encore à l'époque que c'était du manga. Ce n'est que, disons, une dizaine d'années plus tard que j'ai découvert que c'était sous un format papier. Et à ce moment-là, j'ai découvert vraiment les codes graphiques dessinés qu'on connaît tous au niveau de ce petit format de bande dessinée manga.
Et pourtant, ce n'est pas une pratique tellement française que de dessiner des mangas.
Non, du tout. C'est vraiment une culture qui s'est installée dans les années 90-95, où pendant quelques temps, on a cru que ça allait être un phénomène de mode. Mais ce que les gens ne voient pas souvent avec le manga, c'est qu'à la source, il y a le jeu vidéo, il y a des dessins animés, il y a du merchandising, énormément de choses qui font que ça ne peut pas être qu'une simple mode. Aujourd'hui, on peut même observer des jeunes qui se déguisent en cosplay, en personnages de bande dessinée manga. Donc on est loin d'un effet de mode.
Alors est-ce que c'est un art qui est, j'aime pas le mot réservé, mais enfin qui est destiné davantage à un public jeune ?
Non du tout, parce que ma compagne, qui n'est pas fan de bande dessinée manga, mais qui lit de la BD traditionnelle franco-belge, a découvert un auteur qui s'appelle Jiro Taniguchi, et qui raconte l'histoire d'un homme qui escalade les montagnes et se souvient un peu de son passé. Comme ma compagne adore la montagne, elle lit ce genre de bande dessinée parce qu'au Japon, il existe toutes sortes de bandes dessinées, tout public. Donc il suffit simplement de trouver ce qui peut nous plaire en termes d'histoire.
Alors est-ce que vous pouvez très rapidement, parce que je crois que vous êtes demandé, attendu, nous présenter ce que vous faites ?
Moi je suis auteur de bande dessinée maintenant depuis une quinzaine d'années. Je sors actuellement une bande dessinée qui s'appelle Les Rolling Floyd, qui est donc une histoire sur le thème de la musique dont je me suis servi donc pour faire l'affiche de Bourgoin-Jallieu cette année. C'est l'histoire de quatre potes qui se rencontrent et qui veulent créer le meilleur groupe de rock du monde. Simplement, ils sont plutôt un peu des tocards, un peu à la manière de Gaston Lagaffe, ils n'y arrivent pas. C'est un format court, strip, qui est édité aux éditions La Fourmilière BD, qui est une petite structure édition associative qui est sur Villeurbanne, qui a pour but en fait de mieux faire vivre les auteurs, puisque nous en fait on dépend pas trop de la distribution, on essaie de se faire connaître par internet, par les libraires ou par les festivals qui nous invitent sympathiquement.
Alors vous avez réalisé l'affiche du festival ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça représente pour vous de dessiner une affiche ? Est-ce que c'est différent de, comme état d'esprit, comme travail ?
Pour moi c'est du plaisir avant tout. C'est vraiment quelque chose comme une possibilité de montrer une facette de mon travail graphique différente de ce que je peux mettre dans mes bandes dessinées, parce que souvent dans la bande dessinée on a un format qui est bien spécifique. Là on a une liberté vraiment. J'ai eu en tout cas une grande liberté.
J'allais vous poser la question.
J'ai eu une grande liberté par le président du salon qui m'a vraiment soutenu sur cette affiche. J'ai pu proposer quelque chose qui était un peu ma vision de ce que je pouvais attendre les gens qui viendraient à ce festival.
Il est important pour vous le festival ?
Pour moi oui, puisque en fait j'ai pratiquement fait toutes les éditions, sauf une parce que j'étais parti en vacances je crois, mais là je fais la 8e, j'ai dû faire 7 sur 8. Et puis j'ai rencontré donc mon scénariste avec qui je travaille depuis maintenant 5 ans sur la série du Rolling Floyd, mais aussi sur ma série phare qui est Les Chroniques d'un Mangaka, qui raconte l'histoire d'un jeune qui veut faire du manga. ça a été vraiment une rencontre vraiment importante dans ma carrière professionnelle de participer au salon de Beaubourg-Jallieu.
Et ces chroniques d'un mangaka, elles sont publiées également aux éditions
Non, c'est une autre maison d'édition. Autre maison voilà, d'édition. Et donc hein, on peut le trouver pendant que je suis en festival à Beaubourg-Jallieu, il n'y a pas de souci.
Dernière question, et puis après on vous libère. Oui. Vos échanges avec les lecteurs à l'occasion de cette manifestation, c'est riche, c'est intéressant.
Ah ben complètement, parce qu'on travaille 6 à 7 mois tout seul à la maison. Donc quand on fait les festivals, hein, c'est pour rencontrer des gens. Donc avoir leurs sentiments sur la BD, sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont peut-être un peu moins bien aimé pour essayer d'améliorer la fois d'après. Donc c'est vraiment une rencontre hyper enrichissante.
Les dédicaces, c'est une contrainte, non ?
Non, c'est un plaisir. Sauf qu'à un moment donné, on est un peu débordé par le travail. Ça peut être assez physique, parce que là, ça va, c'est dans la région, mais cette année, je vais aller à Bordeaux, je vais aller dans le sud de la France, donc ça fait beaucoup de kilomètres. Et puis, il faut quand même que les planches de bande dessinée se fassent, quoi. Donc, ça, c'est quand même assez... Ça peut, à un moment donné, être éreintant, donc il faut essayer de mesurer un peu les festivals quand on les accepte.
Merci, Gériot.
Merci bien à vous.
Merci.
Merci.
Rossignolet du bois, rossignolet sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière, comment l'amour se fait. Comment l'amour se fait, je m'en vais vous le dire. Faut bien aimer les filles, les aller voir souvent, en leur disant, ma belle, je serai ton amant. Si tu es mon amant, je serai ta maîtresse. Je serai ta maîtresse, et bien fidèlement, je te fais la promesse de rendre ton cœur content. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long, long way from home. A long long way from home. Sometimes I feel like a fatherless child. Long way from home. bois aux signolets sauvages. Apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière.
FM 97.1 de l'album Et de lumière, nous avons entendu Isabelle Bazin. Dominique, quel est ton coup de cœur dans les BD de ces derniers moments à nous faire partager?
Alors, ce n'est pas une BD parue tout à fait récemment, elle a été éditée en 2012, mais c'est un très bel album, ce que les spécialistes appellent un one shot, il n'y a pas de suite. De François Skuyten, qui est un des grands Belges de la bande dessinée. Et c'est l'histoire d'une loco, une vieille loco, la série 12004 Atlantique. C'est une loco à vapeur, naturellement. C'est beaucoup plus beau. Et bien, c'est l'histoire de cette loco, de son mécano et puis de son chauffeur. Vieux chauffeur qui voudrait bien qu'elle continue à faire son travail de locomotive. Alors c'est une drôle d'histoire parce que il y a ce train qui est superbe, la bande dessinée est en noir et blanc, un petit peu mode gravure. Il y a donc ces deux vieux messieurs qui essayent tant bien que mal de faire vivre l'aventure, continuer. Puis il y a une jeune femme dans ce train, mystérieuse, on ne sait pas pourquoi elle est là, elle est muette. On le saura à la fin, ou plutôt on le devinera. Et puis il y a une drôle de cité engloutie par les eaux, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Il y a un téléphérique là qui essaye d'enjamber précisément cette grande étendue d'eau qui envahit tout. Bref, une histoire un petit peu fantastique, mais vraiment très 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 belle par des dessins absolument superbes. Alors pourquoi je parle de François Skuyten? Parce qu'il a eu une actualité cette année, il s'était illustré avec son compère Benoît Peters dans une fabuleuse série qui s'appelle Les Cités Obscures, je crois, avec peut-être une dizaine de volumes, j'ai pas compté. Et puis là, ils viennent d'inaugurer tous les deux, à la fin de 2014, une nouvelle série, Revoir Paris. Et à cette occasion, il y a eu une grande exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris de novembre à mars 2015. Et voilà, l'occasion de redécouvrir peut-être deux des plus grands talents, à mon avis en tout cas, de la bande dessinée tout court.
Donc il y a du travail sur la planche, si on veut voir tout ce qu'ils ont déjà produit.
Oui, absolument. Et absolument.
Avec, là c'était une loco, mais autrement c'est facilement avec entouré d'architecture.
Entouré d'architecture, une architecture art nouveau un petit peu, et puis rêver également, voilà. C'est absolument extraordinaire.
Le jardin vraiment. Dans la ville, la ville dans le jardin, tout à fait. Dominique, j'en profite pour te demander le coup de cœur des lecteurs avec Majolire, les passeurs de mots, partenaires de nos passions et complices de nos découvertes, avec toi, Dominique Molin, le porte-parole, et merci de nous conter ton choix ou tes choix à nous faire craquer l'ossature.
Alors, ce coup de cœur-là, pour l'instant, c'est un roman écrit en langue russe, un roman ukrainien, en langue russe donc, qui s'intitule « Le concert posthume de Jimi Hendrix », qui est de Andrei Kourkov. Ça doit être le quatrième ou le cinquième roman de cet écrivain qui a énormément de talent. Il a été publié par Liana Levy en 2015. C'est un bouquin de 344 pages et qui se passe à Lviv. Lviv, anciennement Lvov, en Ukraine, une ville de près de 800 000 habitants. Une fois par an, d'anciens hippies se retrouvent dans un cimetière pour célébrer la mémoire de Jimi Hendrix, dont ils ont réussi, on se demande comment, on ne le saura pas, à récupérer la main droite qu'ils ont enterrée et qu'ils viennent célébrer tous les ans. Donc, c'est ainsi que démarre ce roman peu ordinaire, qui est d'abord une galerie de portraits, dont on dirait qu'ils ont été écrits par un caricaturiste au regard plutôt tendre sur les personnages qu'il nous dépeint. Un jeune homme qui promène ses clients dans les rues défoncées de la ville, dans une vieille guimbarde, pour les débarrasser de leurs calculs rénaux. Une jeune fille, allergique à l'argent, qui travaille la nuit dans un bureau de change. une jeune femme complètement dévouée à son action humanitaire, un ancien du KGB, un écrivain davantage porté sur l'alcool que sur les mots, un ancien coiffeur au chômage qui rêve de faire changer de coiffure la femme qu'il aime. S'ajoutent à cela de surprenantes odeurs de mer, des mouettes menaçantes et des étoiles de mer. Le roman presque exclusivement nocturne, dernier ouvrage d'Andrei Kourkov, comme on l'a dit au début, mais l'habilement fantastique, un fantastique matinée d'absurde, a une satire, qui donne une image assez exacte de l'Ukraine d'aujourd'hui. L'auteur ne se refuse pas une pointe d'absurde. On n'est pas loin de penser à Gogol, d'une lecture réjouissante et facile. C'est un excellent roman pour l'été. Est-ce que j'en lis un petit extrait ?
S'il te plaît, j'aimerais beaucoup t'entendre, oui.
Taras comptait consacrer la nuit suivante à rechercher les zones d'anomalie au moyen de l'appareil fourni par Simon Fyodorovitch. Le sort, cependant, ne voulut pas que ce plan fût mis à exécution. « Nous sommes trois », lui annonça au téléphone un certain Vaclav, à l'accent polonais prononcé. « Vous nous accorderez bien une remise ?» Taras accepta. Il leur demanda de boire chacun un verre de cognac, 2 heures avant le rendez-vous fixé, puis de passer au moins 1 heure dans un bain très chaud. Ils convinrent de se retrouver à minuit devant l'hôtel Léopolis. Au moment de sortir, Taras prit malgré tout avec lui l'invention du docteur Rescience ainsi que les plans muets de Lviv. Il n'oublia pas non plus sa thermos de café. Une brune désagréable en suspension dans l'air lui mouilla le visage et les mains. Il rangea son sac dans le coffre et en profita pour y prendre un chiffon et essuyer vitres et rétroviseurs. Avant de quitter la cour, il aperçut Jerzy Astrovski à une fenêtre du rez-de-chaussée. Son peignoir en éponge rouge lui donnait une allure de personnage de tableau réaliste du XIXe siècle, tandis que la lumière jaune et intime du lustre ajoutait à la scène un romantisme raffiné. Les nouveaux clients de Taras se révélèrent sympathiques et courtois. Au début, ils se montrèrent volubiles, sans doute à cause du cognac. Chacun présenta avec fierté son cliché radiographique, puis l'un d'eux, le plus jeune des trois, entraîna Taras à l'écart et lui demanda d'accorder un respect particulier à Vaclav. « Vaclav descend d'une famille princière », lui glissa-t-il à l'oreille. « Du sang royal lui coule dans les veines. » Taras sourit en lui-même, mais hocha poliment la tête avec déférence. Il revint à la voiture. Le dit Vaclav, assis sur le siège avant, plaisantait à propos de ses trois calculs. Cependant, après 5 ou 6 kilomètres d'une route assez douce, les sourires avaient déjà quitté les visages de tous les passagers, et Vaclav avait sensiblement blêmi. Taras parcourut 3 fois la rue de Gorodok et 2 fois la rue Lichakov, puis décida que le temps était venu d'essayer les vibrations courtes. Quand la rue de Crimée fut derrière eux, il arrêta la voiture, alluma le plafonnier et tourna la tête vers ses clients. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. Les expressions douloureuses qu'affichaient leurs visages répondirent à sa question. Il comprit que le résultat ne serait pas rapide et dès lors, résigné, il fit demi-tour et remit le cap sur la rue de Gorodok. À 5 heures du matin, l'un des passagers à l'arrière poussa un hurlement et donna un coup de poing dans le siège du conducteur. Taras, automatiquement, enfonça la pédale de frein jusqu'au plancher et l'Opel s'immobilisa sur un bas-côté lugubre près de la palissade d'une usine de ciment. Le passager, tordu de douleur, se déplia, ouvrit la portière et tomba presque sur la chaussée. Taras bondit hors de la voiture, le bocal de verre à la main. Le Polonais saisit le récipient de la main gauche, tandis que de la droite, il s'efforçait tout tremblant de baisser la fermeture éclair de son jean. Cette nuit léopolitaine était emplie de bruit, mais l'humidité de l'air les éloignait et les déformait. Taras resta à 1 mètre du Polonais qui, penché en avant, peinait à se tenir debout. Immobile, attentif à tout ce qu'il s'entendait. Au bout de 2 ou 3 minutes, la pierre heurta discrètement le fond du bocal de verre, aussitôt suivi par le murmure du jet d'urine. Le deuxième client pondit sa pierre à peine 1 demi-heure après le premier. En revanche, les souffrances du troisième, le dénommé Vaclav, se prolongeaient sans résultat. Les calculs princiers mettent plus longtemps à sortir, pensa Taras avec un léger agacement. L'aube approchait. On commençait à croiser d'autres véhicules dans la ville et Taras ne pouvait plus lancer sa vieille Opel à toute allure sur les chaussées inégales. Vers 6 heures, il s'engagea dans la rue Lesnaya et fonça vers le sommet de cette courte ruelle, sans essayer d'éviter les trous et les bosses. Là, enfin, le visage de Vaclav devint franchement livide et l'homme jeta au conducteur un regard suppliant. Taras freina. Pendant que le Polonais se tenait debout, dos voûté face à la colline, Taras contemplant l'immeuble jaune-orange depuis longtemps familier. Sous ses yeux, 2 fenêtres d'abord s'éclairèrent, puis 3 autres. Une nouvelle journée commençait pour ses habitants, alors que Taras n'avait pas tout à fait terminé sa nuit de travail. Il ne verrait pas d'Arca ce matin, mais c'était là tout ce qu'il chagrinait. La bouteille thermos s'étant rappelée à sa mémoire, Taras la sortit du coffre et proposa du café à ses clients, assis sur la banquette arrière.
Ça décoiffe, comme on dit.
C'est pas mal. J'adore ce mélange d'humour, un humour tendre quand même, et puis une description de la nuit qui est très belle.
Cette description, il y a beaucoup, puisque tout le livre se passe pendant la nuit.
Pendant la nuit, les virées nocturnes des uns et des autres. C'est extraordinaire, il faut vraiment lire ce bouquin. Puis en plus, c'est d'une lecture très facile, on l'avale très rapidement, c'est un bouquin de 300 pages, mais on le lit en quelques heures.
Pour toi, pour moi, ça sera un peu plus. Tu as un autre coup de cœur?
Alors, j'ai un autre coup de cœur. Alors, mais c'est un bouquin qui est paru, qui a été traduit, pardon. C'est un roman italien. Il a été traduit en 2014. Mais c'est ma plus belle lecture de l'année.
Ah, dis-nous tout.
Il s'agit du deuxième roman de Silvia Avallone, Marina Bellezza. Ça, c'est paru. Coïncidence, chez Liana Levi également, d'un bouquin de 514 pages, un peu lourd. Et bon, je l'ai lu en italien, j'espère que la traduction française n'a pas affadi la beauté de ce passionnant roman, qui n'est pas seulement l'histoire de deux jeunes gens arrivés au seuil de leur vie adulte, mais également l'histoire d'une société se complaisant trop souvent dans une modernité débridée et tellement artificielle. L'histoire de parents murés dans leur égoïsme, l'histoire d'une région qui se meurt d'avoir perdu, sans pouvoir rien faire, son tissu industriel. Marina réussira-t-elle à réaliser le rêve qui l'habite depuis son enfance, devenir une star mondiale de la chanson? Quand elle est sur scène, sa voix, l'énergie qui l'habite, emporte tous les doutes. Andrea réalisera-t-il à faire revivre la ferme autrefois tenue par son grand-père dans la montagne? Il faudrait convaincre des parents qui avaient pour lui d'autres ambitions. Les deux jeunes revivront-ils l'amour qui les a rapprochés quand ils étaient adolescents? En même temps qu'elle tisse son histoire, la jeune romancière décrit une région, la province de Biella, dans le Piémont, où les fabriques de laine ont fermé les unes après les autres, n'offrant plus au regard que des carcasses désolées, où les jeunes ont quitté pour la plupart un pays autrefois prospère, à moins qu'ils ne traînent dans le bar du village, à regarder quelques feuilletons américains en buvant une bière. Entre l'ennui mortifère de ceux qui n'ont pas choisi de partir, l'utopie de quelques-uns qui croient possible de faire revivre le pays, entre la rage en dépit de tout et le vertige d'une vie différente, l'envie d'aimer quel qu'en soit le prix et le désespoir, la force de ce roman tient de cette tension qui l'habite de la première page à la dernière, tension amoureuse entre deux jeunes qui ne cessent de se chercher, tension familiale qui met à nu des blessures peut-être inguérissables, tension sociale rarement explicitée, mais qu'on devine présente dans un pays qui n'en finit pas d'agoniser. Silvia Avallone, dont nous avions admiré le premier roman Acier, qui déjà racontait deux adolescentes en proie au mal de vivre, et de s'affirmer sur le fond d'une Toscane inhabituelle saisie par le doute devant son industrie moribonde, réussit à transformer l'essai de ce premier opus en réussite magistrale. En même temps, elle nous enchante lorsqu'elle évoque cette région entourée de montagnes, avec ses ciels changeants, ses oiseaux qui veillent sur elle, ses torrents fougueux, ses tempêtes de neige, une nature souvent insolente qui se rappelle à nous chaque fois que nous feignons de l'oublier. Ouvrez ce livre et laissez-vous emporter comme je l'ai été, avec parfois des moments d'une intense émotion.
Alors si vous ne pouvez voyager cet été, les livres feront les voyages pour vous. Là, on a été en Ukraine, en Italie, dans le Piémont, entre autres.
Oui.
Voilà, et tant d'autres livres.
C'est la magie de la lecture.
C'est la magie de la
lecture. On était en Belgique avec La Douce.
Oui, La Douce. On vous propose de ne pas oublier les libraires et d'aller choisir ainsi et feuilleter.
Bien sûr.
Et piquer, parce que c'est difficile, il y a tellement de livres que faire un choix, c'est jamais évident.
Il y a beaucoup de livres, c'est vrai, mais je pense qu'il y a toujours un livre pour soi, rien que pour soi. Mais on doit pouvoir le trouver.
Il faut laisser aller ses sens.
Voilà.
D'accord, merci.
Couleur FM 97.1. Pour finir, nous avons entendu de Gabriel Fauré, 1845-1924, et l'Orchestre de Paris dans le Cantique de Jean Racine, de l'album Requiem. En 1865, Fauré remporte le premier prix de composition avec ce cantique.
Alors, nous avons déniché à la fête du livre de Bron petit bouquin, petit par le format, mais pas par la qualité, qui est écrit par Samuel Stento et Rémi Cellier, publié aux éditions de La Cerise, dans lequel il y a un certain nombre de textes. Alors, on ne peut pas parler de bande dessinée parce que bon, c'est plutôt des images et du texte. Ce serait plutôt un album, je dirais. Et dans ces textes, il y en a un qui nous plaît bien et qui s'intitule « D'où vient l'ogre ?» D'où vient l'ogre ? De ses bottes. Et ses bottes ? De sept lieues, évidemment. Quand il était petit, l'ogre était grand, vieux même. Il aurait bien aimé être un enfant, mais il est né trop tard, déjà adulte. Le temps passé, c'est du temps perdu. L'ogre le sait, mais ne s'y fait pas. Alors il court après, à reculons. Certes, l'enfance ne se rattrape pas, mais l'enfant, si. C'est l'avantage des bottes de sept lieues sur les petites jambes. Mais on a beau dire, la chair fraîche n'est plus ce qu'elle était. Les temps changent. Et les enfants aussi. Ils se perdent de moins en moins souvent dans les bois. C'est bien dommage, car il ne reste plus à l'ogre que des scouts pour assouvir sa nostalgie. La chair scout laisse dans la bouche un goût amer, un goût de rance, un goût d'adulte. L'ogre est un grand enfant, le scout n'est qu'un petit militaire. Au réveil, il ne salue pas ses parents, mais son drapeau. Ainsi finissent les enfants abandonnés, ils moisissent et deviennent scouts. Les forêts sont humides. La nuit venue, tout le monde se retrouve autour du feu. La chaleur des flammes attire les scouts et leur chant attire l'ogre. La nature est bien faite, malgré tout. L'ogre est un chasseur nocturne. Le jour, il se replie dans ses bottes, comme son cousin escargot. C'est le neveu de Marie-Paul, la nièce de Sylvie, la tante de l'escargot. L'escargot porte des bottes de 0,0014 lieues, parfois de 0,0015, mais c'est plutôt rare. Car il est moins nostalgique que son cousin, il va toujours de l'avant, doucement, mais de l'avant. Il ne regarde jamais derrière lui, sauf bien sûr pour voir passer son cousin l'ogre. Il n'ira jamais bien loin dans la vie, mais il ne le sait pas et il s'en fout. Il est végétarien. L'ogre, lui, va de l'arrière, à grands pas, mais de l'arrière. À tant courir après des scouts, il a perdu le goût de la vie et ne retrouvera plus le chemin de la mort. Alors, si un soir, au détour de votre enfance, vous croisez la course de l'ogre, tendez-lui la main. L'espace d'un instant, le temps d'un doigt dodu, il retrouvera peut-être la saveur de l'enfance.
Et donc, pourquoi pas, c'est cela?
Pourquoi pas, donc, oui. Aux éditions de la Cerise.
Et ils répondent comme ça à des questions.
Alors, il y a des questions, il y a des questions. Il y a pourquoi le hérisson n'a-t-il pas de phare? Pourquoi Dieu n'est-il pas une huître? Pourquoi réduire la faim dans le monde? La faim est fienne, bien sûr. Pourquoi l'enfant perd-il ses dents? Pourquoi a-t-on deux yeux? Pourquoi la conquête spatiale? Pourquoi voyager quand on peut rester chez soi? C'est vrai. Pourquoi Rome ne s'est-elle pas faite en un jour? C'est une vraie question. Pourquoi vieillit-on? Pourquoi le Père Noël est-il rouge? Pourquoi l'arc-en-ciel? Pourquoi le regard n'est-il pas enseigné au conservatoire? Pourquoi notre réveil matin n'a-t-il pas de bras? Ah. Pourquoi toujours se poser des questions?
Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Nous voici tout doucement à la fin de notre émission. Avant de nous quitter, de vous souhaiter de très bonnes vacances, on vient de faire quelques petits voyages ensemble, j'ai le plaisir de vous annoncer que si le Tidan Mag s'arrête, une émission du même concept prendra la relève, et toujours avec Dan et Dom, Dominique. De quoi s'agit-il, Dominique?
Eh bien, il s'agit de... Au fil des arts, un magazine culturel qui accueille tous ceux qui ont choisi d'emprunter les chemins de la création artistique, plasticiens, peintres, sculpteurs, illustrateurs, écrivains, poètes, romanciers, auteurs de BD, architectes, musiciens, photographes et gens de scène. À l'écoute des multiples convergences qui sont une des caractéristiques de l'art contemporain, Au fil des arts s'intéresse également à ceux qui se préoccupent de la préservation du patrimoine culturel, historiens, conservateurs, associations patrimoniales. Toujours sous l'angle de la culture, le magazine est attentif aux débats d'idées à l'occasion d'une parution, d'un événement local ou régional. En s'appuyant sur leur actualité, Au fil des arts propose des entretiens structurés avec ces artistes qui viennent évoquer leur parcours, leur travail, leurs références. Des pauses musicales rythment l'émission comme autant de respirations ou d'occasions offertes à l'artiste pour qu'il ou elle exprime telle ou telle sensibilité que le questionnement n'aurait pu faire apparaître. Voilà.
Eh bien, le Tidan s'en va et vive le...
Au fil des arts.
Dan Dom avec le fil au fil des arts.
Au fil des arts.
Voilà. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci Laurent. Merci Daniel. Pour tous ces moments partagés et bonne continuation.
Merci, Titane.
Merci, merci.